Colossiens 3, versets 1 à 16. Du moment que vous êtes ressuscité avec le Christ, recherchez ce qui est en haut, là où se trouve le Christ, assis à la droite de Dieu. C'est en haut qu'est votre but, non sur la terre. Vous êtes mort, en effet, et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Quand le Christ, votre vie, paraîtra, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui en pleine gloire. Faites donc mourir ce qui en vous appartient à la terre, débauche, impureté, passion, désir mauvais et cette cupidité qui est une idolâtrie. Voilà ce qui attire la colère de Dieu. Voilà quelle était votre conduite autrefois, ce qui faisait votre vie. Maintenant donc, vous aussi, débarrassez-vous de tout cela. Colère, irritation, méchanceté, injure, grossièreté sortie de vos lèvres. Plus de mensonges entre vous, car vous vous êtes dépouillés du vieil homme avec ses pratiques. Et vous avez revêtu l'homme nouveau, celui qui, pour accéder à la connaissance, ne cesse d'être renouvelé à l'image de son Créateur. Là, il n'y a plus grec et juif, circoncis et incirconcis, barbare, chiite, esclave, homme libre, mais Christ. Il est tout et en tous. Puisque vous êtes élus, sanctifiés, aimés par Dieu, revêtez donc des sentiments de compassion, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a un grief contre l'autre, pardonnez-vous mutuellement, comme le Seigneur vous a pardonné. Faites de même vous aussi. Et par-dessus tout, revêtez l'amour, c'est le lien parfait. Que règne en vos cœurs la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés, tous en un seul corps, vivez dans la reconnaissance. Que la parole du Christ habite parmi vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres avec pleine sagesse. Chantez à Dieu dans vos cœurs votre reconnaissance par des psaumes, des hymnes et des chants inspirés par l'Esprit. Tout ce que vous pouvez dire ou faire, faites-le au nom du Seigneur Jésus, en rendant grâce à lui, à Dieu le Père.
Bonjour, merci de m'accueillir à nouveau parmi vous. Vous voyez, décidément, à chaque fois que je viens, ce sont des textes de Paul qui sont assez denses. Alors aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, avant de nous plonger dans ce passage, eh bien, j'avais envie de vous raconter une histoire, celle de Félix. C'était un homme au pas alerte. Malgré le poids des années, il continuait à sortir chaque jour pour faire son marché, quelques courses, ou tout simplement pour se promener. Au milieu de la foule, rien n'attirait particulièrement le regard sur lui. Mais si vous vous approchiez un peu, vous pouviez l'entendre fredonner. Oui, Félix chantait. Que la pluie s'abatte sur la ville ou que le soleil le fasse cligner des yeux, Félix chantait. Et que ce soit l'épicière, la boulangère ou le petit voisin sur sa trottinette, Félix les gratifiait d'un sourire. C'est à croire que c'était un homme heureux. Alors ne pensez pas que la vie avait été plus facile avec lui qu'avec un autre. Il avait perdu ses parents adolescents, avait connu l'épreuve de la guerre et la disette, n'était pas qu'un mot pour lui. Du travail et de l'amour, il avait connu les joies et les peines. À passer 80 ans, il avait dit adieu à beaucoup d'amis, et depuis quelques années, il apprivoisait l'absence de sa femme. Et pourtant, rien ne l'avait jamais empêché de chanter. Même en sourdine, il se laissait habiter par des mélodies joyeuses. Et aucun chagrin n'avait résisté à ces quelques notes sifflotées ou chantées à pleine voix. Il était né en 1924 avec le premier tourne-disque. La musique résonnait en permanence dans sa maison et toutes les technologies s'y étaient succédées pour faire écho à son plaisir de chanter. Il aimait tellement la musique qu'il avait le désir secret d'acquérir un lecteur MP3. S'il avait été bercé avec bonheur par les chansons de sa mère, son premier éblouissement musical datait du Noël de ses 4 ans, où lors du culte de Noël, il avait entendu résonner toutes ses voix mêlées au son de l'orgue. Tout son corps avait alors vibré. Il était ressorti heureux et marchant sur la neige, il entendait résonner dans sa tête une mélodie qui le ravissait. Il avait envie de crier « Merci, merci !» Il avait froid, mais il avait le cœur chaud. Et jamais cette flamme ne le quitta. Un jour, qu'il chantonnait en marchant, une fillette lui demanda pourquoi elle chantait. « Oh, pour le plaisir » répondit-il spontanément. Mais la question continua à l'habiter. Il se demanda pourquoi finalement il chantait toujours ainsi. Assis dans le fauteuil de son salon, il y repensait en savourant une tasse de thé. Et soudain, il se dit « Mais en fait, c'est une manière de dire merci. Merci à la vie, merci d'exister, merci d'être en vie, de pouvoir respirer, marcher, parler, être, tout simplement. » Ces quelques notes de musique, c'était plus que le plaisir de fredonner. Cette joie intense de vivre, eh bien, c'était un merci, une reconnaissance, parce que rien n'avait jamais pu l'entamer, et il y voyait un cadeau de Dieu. Puis un jour, Félix trébucha et se retrouva dans un lit d'hôpital. Calé sur son oreiller, avec son lecteur MP3, il chantonnait encore parfois en regardant le vent jouer dans les arbres. Chaque matin, il se réveillait, surpris d'être encore en vie, et chaque soir, il se réjouissait d'une visite, du chant d'un oiseau, d'un repas plus savoureux qu'un autre, ou du bruit de la pluie qu'il aimait tant. Peu à peu, il s'éteignit, le cœur rempli de reconnaissance. Un matin, il rendit son dernier soupir. Sur son visage se dessina un sourire. Alors, le chant d'un merle brisa le silence, comme un dernier merci pour sa vie. Voici donc l'histoire toute simple d'un homme en lien avec une joie profonde, cette joie d'exister, d'être, cette joie qui chez lui est sans cesse nourrie par la reconnaissance. Alors on le sait, on peut passer sa vie à se plaindre de ce que l'on n'a pas, de ce que l'on n'a pas eu, de ce que l'on n'a pas fait. Mais aussi, on peut aussi se réjouir de ce que l'on a reçu et du simple fait d'être en vie. Alors un chant peut monter de nos lèvres comme un merci qui déborde de soi. Alors Félix, semble-t-il, a reçu ce don, mais on peut aussi l'apprendre, parce que la morosité et l'insatisfaction ne sont pas des fatalités. Alors c'est un fait avéré, la reconnaissance et la gratitude s'exercent. Dire merci, se réjouir de ce qui est beau et bon, cela s'apprend. Mais au-delà d'une attitude psychologique, d'une manière de penser positive, cela va plus loin, parce que cela concerne notre posture essentielle dans la vie. Sommes-nous capables de vivre presque en permanence dans la reconnaissance? Félix chante tout le temps. C'est comme si sans cesse il était porté par une mélodie intérieure. Une joie profonde déborde de ses lèvres. Cet homme aurait-il percé le secret de la louange? Cette histoire fait écho à la fin du texte d'aujourd'hui. On peut peut-être le projeter, si vous, juste la fin, si vous y arrivez. Merci. Ce texte qui nous parle aujourd'hui du bonheur d'être un être renouvelé, d'un bonheur qui se traduit par le chant, par les hymnes et par les psaumes. Et ici, l'auteur de l'Épître aux Colossiens insiste sur la reconnaissance. Et d'un point de vue étymologique, on peut se rappeler que la reconnaissance est construite sur la notion de grâce. Alors les traductions varient entre être reconnaissant ou rendre grâce. Au verset 15, vous voyez qu'il est écrit « Vivez dans la reconnaissance » et littéralement, dans le grec, c'est « Vivez dans l'action de grâce ». Et puis par deux fois encore, l'auteur des Colossiens insiste sur la grâce, donc au verset 16, « Chantez à Dieu dans vos cœurs votre reconnaissance par des psaumes, des hymnes et des chants inspirés par l'Esprit. » Dans votre reconnaissance, traduit ici aussi « dans la grâce ». Et de même au verset 17, « Tout ce que vous pouvez dire ou faire, faites-le au nom du Seigneur Jésus, en rendant grâce par lui à Dieu le Père. » Donc ici, on a « rendre grâce ». On aurait pu dire « en disant votre reconnaissance à Dieu le Père ». Alors vous voyez dans ce flou, un petit peu dans le choix des termes de traduction, nous pouvons tirer un indice pour mieux comprendre ce passage. C'est que la reconnaissance est totalement liée à la grâce. Elle est une réponse à la grâce qui nous est faite. La vie en Dieu nous est offerte, une grâce nous est donnée et nous sommes appelés à rendre grâce. C'est ça, la reconnaissance. Après avoir fait toute une description de l'éthique de l'homme nouveau, là entendu, de la manière dont celui qui vit en Christ voit son existence renouvelée en permanence, notre auteur clôt son texte sur la réponse de l'humain face à Dieu et au Christ. Et les croyants sont donc ici invités à exprimer leur gratitude. Comme le dit Jean-Noël Aletti dans son commentaire, « La vie chrétienne est une vie dans l'action de grâce continue. » Ainsi s'indique la finalité de la vie éthique des baptisés. Faire de toute leur existence une réponse en, avec, par Christ, un acte de reconnaissance à la gratuité divine. Voilà aussi pourquoi Colossiens place l'action de grâce à la fin des exhortations éthiques, avec une insistance qui montre à l'évidence qu'il en fait le sommet de l'existence chrétienne. Voyez donc ce que nous dit Aletti. L'importance de cette expression de l'être humain, de cette action de grâce, comme si, bénéficiaire d'un cadeau de Dieu, l'être humain ne pouvait vivre finalement que se réjouissant. Un peu comme Félix, heureux de vivre, incapable de retenir les mots et les notes qui viennent de son cœur. Alors la reconnaissance face à Dieu, cette reconnaissance, eh bien, trouve dans le chant et dans la prière chantée un mode d'expression privilégié. Chantez à Dieu dans vos cœurs votre reconnaissance par des psaumes, des hymnes et des chants inspirés par l'Esprit. Alors pourquoi le chant est-il un moyen privilégié d'exprimer cette reconnaissance? Vous le voyez au verset 17, oui, vous l'avez. « Tout ce que vous pouvez dire ou faire, faites-le au nom du Seigneur Jésus, en rendant grâce par lui à Dieu le Père. Tout ce que vous pouvez dire ou faire. » Voyez qu'ici l'action et la parole sont unies dans une même intention. Comme si dans le Christ et dans l'action de grâce, tout l'être pouvait se rassembler. Eh bien, je crois que le chant favorise cette unification entre notre action et notre parole. Parce que, alliant parole et corps, le chant est une manière vraiment de se rassembler devant Dieu. Avec soi-même, donc, puis aussi avec les autres, dans le cadre du culte. Voyez, il est très beau que tout ce passage qui parle de l'éthique chrétienne, de notre manière de vivre les uns avec les autres, aboutissent finalement à une invitation à la louange et au chant. Comme si tout le but de notre vie était de pouvoir se rassembler, soi-même et avec les autres, dans un seul chant. J'y verrais presque une invitation à la jubilation. Chanter la grâce. Traduire par des paroles rythmées, chanter notre merci à Dieu. Alors on le sait, le chant est tonifiant, et cela peut être un grand plaisir que de partager des cantiques et des chants ensemble. Mais, on le sait, dans certaines communautés chrétiennes, parfois les chants sont poussifs, les voix timides, et je me dis que les musiciens doivent faire l'expérience d'une grande solitude quand ils accompagnent presque le silence. Puis vous savez, il y a les chants qu'on ne connaît pas, puis les notes aiguës impossibles à attraper à 10 heures du matin. On vit parfois des moments assez lourds, pour certains, le nez dans les cantiques, à attendre avec impatience l'arrivée de la dernière strophe. Et on remercie les 2-3 paroissiens courageux qui osent des solos depuis 30 ans. Voilà donc que le moment de la louange, de l'expression de notre reconnaissance, devient parfois un moment difficile à passer. Alors on peut se réfugier derrière nos explications habituelles, les paroles ne parlent pas, les mélodies sont inconnues, enfin bon. Mais enfin au moment du chant, quand même on touche à l'expression intime de la communauté. Et son chant est souvent, très souvent, le reflet de sa vitalité. Alors, il y en a pour tout le monde ce matin, donc dans d'autres communautés, c'est plutôt l'excès de vitalité que l'on peut constater. La louange, c'est le moment où on s'éclate, et cela part parfois dans tous les sens, et d'ailleurs tous les sens sont exacerbés. Parfois la musique est si forte qu'on en est étourdi, et j'en connais qui se désespèrent du volume de la batterie. Et de cette impression, finalement, qu'on chauffe un peu la salle. Alors la louange, ça déchire, mais parfois pour certains, un peu trop. Alors vous voyez une fois de plus la difficulté de traduire notre foi en communauté. Entre celles et ceux qui aiment que cela bouge et que ça remue, et les autres qui aiment tellement la retenue que l'on n'entend que des filets de voix. Tout cela, c'est un peu caricatural, mais enfin vous connaissez. Et puis, mais je pense que finalement, nous avons à accepter que cela correspond à des types de personnalités et à des cultures ecclésiales différentes. Ce n'est pas à juger, c'est ni bon ni mauvais, c'est ainsi. Alors n'attendez pas que je vous dise comment on loue bien le Seigneur, je pense que chacun le fait à sa manière. La seule chose, moi, que je puisse apporter en tant que pasteur, c'est de nous rappeler l'importance cruciale de la louange et de la reconnaissance. À lire Paul ce matin, nous pouvons nous rappeler ensemble que le rendre grâce est le point de convergence de tous les aspects de la foi chrétienne. C'est le sommet. Notre chant est appelé à être porté par la joie, la liberté en Christ, par des voix claires et joyeuses, pleines de reconnaissance face à Dieu. Puis, je crois qu'il m'appartient aussi, comme à toute croyante, à tout croyant, de me poser la question de la place de ma voix et de mon chant dans l'assemblée. On le sait bien, un souffle, une louange traverse l'histoire chrétienne. Et aujourd'hui, nous héritons d'une tradition musicale riche, variée. Et la question est, comment est-ce que nous arrivons à nous l'approprier ? Cette cantate de Bach est-elle un fond musical ou revêt-elle encore un sens profond pour moi ? Ce cantique du 16e me parle-t-il encore ? Et puis les paroles du recueil de Jeunesse en mission me conviennent-elles ? Est-ce que je chante par habitude, par devoir ? Est-ce que quand j'ouvre la bouche, c'est bien la reconnaissance qui déborde de mon cœur ? Alors nous avons tous une voix, plus ou moins juste. Nous avons tous une oreille, plus ou moins absolue. Mais ce qui importe, c'est moins la technique vocale et les connaissances de solfège que l'esprit dans lequel nous chantons. Sommes-nous portés par cette joie d'être chrétienne ? Vivons-nous dans la reconnaissance face à notre Dieu ? Avons-nous envie de chanter à pleine voix notre joie ? Puis une fois sortis du culte, continuons-nous à être portés par nos chants ? Est-ce que nous le fredonnons encore ? Vous arrive-t-il de fredonner du cœur et de la voix, ou toi qui disposes en faisant la vaisselle, ou de nous lever le matin avec quelques notes connues dans la tête ? Là, vous pourriez me répondre que l'on ne vit pas dans une comédie musicale, et que l'histoire de Félix est bien jolie, mais que la réalité est autre. Oui, mais alors autant remettre en question tout le programme de l'auteur des Colossiens. Je ne crois pas que je sois frappée d'une crise d'optimisme estival, quoique, enfin bon. Mais je crois que ce qui est décrit dans le texte d'aujourd'hui n'est pas impossible. On nous parle de la transformation de l'être intérieur. Cela va toucher en nous au cœur même de qui nous sommes, au point le plus profond en nous où se trouve notre vitalité, la source de toute joie, là où se forme le chant de l'âme. Ce texte nous parle donc du plus profond de nous. Alors on a souvent envie de tergiverser, d'interpréter à notre manière, de relativiser, parce que les paroles des textes bibliques sont parfois un peu pesantes, et le texte de ce matin l'est particulièrement, on peut revenir au début du texte. Merci. Ce texte nous rappelle l'exigence éthique qui découle de la foi en Christ. Pas très facile de l'entendre. Mais une fois passé l'agacement que peut susciter ce texte, ou alors la culpabilisation, c'est selon les personnalités, nous rappelant que colère, irritation, méchanceté, injure, grossièreté, mensonge devraient céder devant le pardon et les sentiments de compassion, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience. Une fois passé l'inconfort de ce petit rappel d'un agir chrétien authentique, on est bien contraint de se rendre compte de la justesse de ce catalogue de vices et de vertus. Parce qu'au-delà de la morale, il s'agit de l'esprit qui règne dans un lieu. Et reconnaissons-le, on sent dans un groupe si ça sonne juste ou pas. Vous savez, c'est comme une question d'accordage. Parce que ce soit de manière individuelle ou communautaire, si l'on est accordé à Dieu, je crois que cela s'entend et cela se voit. Le texte d'aujourd'hui nous parle donc d'une manière de vivre orientée vers Dieu et accordée à lui. C'est net et précis. Et comme l'accordage d'un instrument, cela demande un investissement régulier et de revenir sans cesse sur les mêmes notes. Ce serait quand même plus facile d'être chrétien juste du bout des lèvres. Mais la lettre aux Colossiens, dans la fidélité à la pensée de Paul, nous rappelle que nous sommes appelés à l'être jusqu'au bout des lèvres. Et en ce sens, le chant, le travail de la voix, peuvent nous offrir une analogie frappante avec la vie spirituelle. Parlant des chanteurs lyriques, René Fleming, vous la connaissez peut-être, dans sa biographie « Ma voix », donc René Fleming écrit ceci. « Une voix qualifiée est revêtue d'une sorte d'autorité innée, capable de transmettre le sentiment de la force. Nous pouvons nous faire entendre sans micro. Nous chantons avec tout le corps. Les sons que nous produisons n'émanent pas seulement de notre tête, mais de toute notre âme et de tout notre cœur. Mieux encore, ils viennent de nos entrailles. » Décrivant donc ce que font les chanteurs lyriques, René Fleming nous rappelle que la pratique du chant engage toute notre personne. Et en nous mettant debout pour chanter, d'ailleurs, à chaque fois nous le signifions. Et c'est aussi un signe, vous le savez certainement, de résurrection. Quand on se met debout, on dit que nous sommes ressuscités en Christ. Ça, c'était vraiment une tradition dans l'Église primitive. Souvent, on l'a oublié. Bon, c'est vrai que le pasteur dit rarement « Levons-nous, nous sommes ressuscités ». Mais en fait, vous pourriez l'entendre à chaque fois que vous entendrez « Levez-vous », c'est vraiment ça. « Levez-vous, vous êtes ressuscités, vous êtes mis debout en Christ ». Donc, chanter, qu'est-ce que cela demande ? Eh bien, d'être d'abord bien ancré dans le sol, bien présent dans la réalité. Cela demande aussi de trouver son alignement. Cela demande de mobiliser son énergie et sa concentration. Et puis, dans le travail vocal, le plus difficile, c'est de faire assez d'espace en soi pour laisser résonner sa voix, pour laisser aller la voix. Et puis, cesser, vous savez, de faire toutes ces choses parasites qui bloquent l'émission vocale. On doit vraiment être concentré, avoir le plus de détente possible en soi. Et puis faire aussi toujours plus d'espace. Je ne sais pas si vous avez un peu fait de chant, mais enfin, vous pouvez passer des heures avec le palais mou, la langue, trouver le plus d'espace possible en soi. Donc, chanter, c'est mettre la plus grande technique au service de la liberté de sa voix, pour que sa voix puisse vraiment, totalement, habiter son corps. La plus grande technique au service de la liberté. Et bien, la vie spirituelle, je crois que c'est pareil. Un chemin d'exigence et de liberté. Exigence dans la réponse à Dieu, liberté, entendue comme la libération de ce qui entrave nos vies. L'exigence. René Fleming insiste beaucoup sur le travail. Quand elle écrit encore, « La voix commence à coup sûr par quelques talents. Mais si le talent est une graine, c'est le dur labeur qui est responsable de l'arbre immense qui en est issu. Afin d'atteindre sa pleine puissance, ce talent doit être nourri, cajolé, provoqué, dorloté, déifié et à chaque instant mis à l'épreuve. » On pourrait dire la même chose de la foi, hein, qui doit à chaque instant nourri, cajolé, provoqué, dorloté, déifié et à chaque instant mis à l'épreuve. Pour que la vie en Christ puisse atteindre en nous sa pleine puissance, eh bien, nous sommes appelés à faire un travail intérieur. Il nous faut travailler à retrouver en nous la reconnaissance et la gratitude. Il nous faut creuser pour retrouver ce lieu en nous d'où monte le chant de notre âme. Il nous faut nous désencombrer de tout ce qui obstrue cette source de joie en nous, cette source de joie et de gratitude. Il nous faut nous désencombrer de tous ces comportements qui entravent notre vie intérieure. Et alors, on peut chanter à plein poumon et de tout son cœur. Je crois que ce n'est pas pour rien que Colossiens fait de la reconnaissance et de l'action de grâce le sommet de l'existence chrétienne. Parce que la reconnaissance, c'est un merci. Le merci d'un cœur apaisé, allégé de la lourdeur de vivre seulement par soi-même. Dire merci à Dieu, c'est se décentrer de soi comme seule source et origine de sa vie. C'est être pleinement conscient que la vie nous est donnée à chaque instant. Le chant qui nous est demandé est celui de la réponse à ce don, un merci plein et entier porté par le souffle de Dieu. Alors quand notre foi s'essouffle, chantons. Quand nous devons faire face aux fausses notes de la vie, chantons. Quand nous sommes découragés, chantons. Et aussi les jours où le soleil brille, chantons. Parce que parfois c'est facile et joyeux de chanter aussi. Ça vient tout seul. J'espère qu'en boitant le pas de Félix, nous ne nous lasserons jamais d'interpréter et de réinterpréter la partition de la reconnaissance. Amen.